retour pour le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires. Et aujourd'hui, je suis avec Jonathan Léveillé et seulement lui parce que les dernières deux semaines, on avait des invités qui étaient avec lui également pour différentes discussions. Jonathan, comment ça va aujourd'hui? Comment ça se déroule de ton côté avec tes projets?
En grande forme aujourd'hui. Je reviens ce matin d'une rencontre à 7h AM avec un groupe d'affaires à Montréal, le Corporate Connection. Donc, premier échange en personne dans les trois dernières années à réseauter. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Ça donne toujours un bon boost d'énergie, des bonnes connexions de fait. Donc, en pleine forme aujourd'hui et bien content d'avoir assisté à cet échange-là de networking ce matin.
Donc, un petit déjeuner d'affaires pour commencer la journée. C'est bien ça?
Absolument.
Parce qu'on a pris l'habitude de faire du networking par podcast. Hein? C'est un peu ce qu'on fait. Puis je pense que tu t'es mis également au jeu dans les derniers temps. Tu fais énormément de podcasting. Et je t'avais dit à un moment donné que moi, le podcasting, pour moi, c'est un petit peu mon networking. J'ai l'impression que tu y as pris goût également, mais effectivement, il n'y a rien de mieux que faire du réseautage en direct, par contre.
Absolument. C'est ce que je réfléchissais justement ce matin, d'être avec des gens en présentiel. Puis je me disais, qu'est-ce qui est le plus efficace? Est-ce que c'est d'avoir fait une heure de voyagement pour me rendre à Montréal, d'être une heure et demie avec des gens autour, de partir avec 4-5 connexions? Ou le podcast, entre autres, qui est un bel actif numérique qui nous permet d'ouvrir des conversations avec des gens très intéressants également. Mais on peut le faire un petit peu plus de manière ciblée aussi. Fait qu'il y a une bonne réflexion. J'avais effectivement cette réflexion-là ce matin. J'ai beaucoup bâti l'entreprise OpenMind dans les dernières années sur des réseaux de connexion qui étaient en présentiel. Pour ceux qui connaissent, entre autres, les BNI de ce monde, on avait des clubs équivalents sur la Rive-Nord qui ressemblaient à ça. Corporate Connection est un peu la continuité des BNI. Moi, ça m'a beaucoup aidé à démarrer l'entreprise parce que j'ai démarré tellement jeune, à l'âge de 19 ans, que j'avais peu ou pas de contact pour aller chercher des clients. Et là, je me pose la question sérieusement aujourd'hui, là, c'est quoi les meilleurs effets de levier pour grandir son réseau de contacts, d'ouvrir des portes? Et on a eu la chance souvent, Antoine, toi et moi, de jaser à rideau fermé de la capacité, entre autres, de ce qu'un podcast peut apporter en termes de réseautage. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Mais il y a beaucoup d'autres bénéfices aussi au podcast. Et je pense que c'est un petit peu le but de la discussion aujourd'hui, de parler des actifs numériques et des nombreux avantages qu'on a qui peuvent être générés par ces actifs numériques-là. Puis il faudrait d'abord dire qu'est-ce que des actifs numériques pour que tout le monde nous comprenne bien, mais à quel point ça peut avoir un impact aujourd'hui sur nos entreprises, puis sur notre vie personnelle et sur ce qu'on développe comme relation avec d'autres gens. Et on est un excellent exemple, toi et moi, on a eu une première discussion ensemble à cause justement de ton podcast sur lequel aujourd'hui j'ai la chance d'être invité. Mais si c'était pas de ça, nos chemins ne se seraient pas croisés, mais on a eu tellement d'affinités après ça sur un paquet de sujets que tu as eu la chance de joindre le groupement d'affaires dans lequel j'étais. On a fait des voyages ensemble, on parle régulièrement de business. Mais tout ça a parti du petit lien de réseautage que le podcast a amené, qui est un des nombreux actifs numériques qu'on peut développer. Fait que parlons actifs numériques, Antoine.
J'adore, mais par contre, je veux qu'on fasse un podcast également pour le réseautage en présentiel, Jonathan, parce que je vais être honnête avec toi. Je suis totalement pourri avec ça. C'est le terme que je vais utiliser. Je suis totalement pourri. Je ne comprends pas comment les gens font pour faire du réseautage. J'ai toujours essayé. Et moi, c'était pas naturel. Ça me crée un petit peu de la nervosité. Ça me crée de l'anxiété. Comment je m'en vais parler à des gens que je connais pas? Donc, j'aimerais t'entendre ultimement sur du réseautage en présentiel. Mais c'est avec un immense plaisir qu'on va discuter d'actifs numériques. Aujourd'hui, par où on commence? Est-ce qu'on explique un petit peu à notre audience qu'est-ce que c'est par la suite? On analyse quels sont nos différents actifs numériques et qu'est-ce que notre audience pourrait faire pour voir si eux-mêmes ont des actifs qui pourraient être améliorés en date d'aujourd'hui.
Je pense que ça fait beaucoup de sens, Antoine. Premièrement, listons quelles sont les possibilités peut-être d'actifs numériques pour être certain que tout le monde comprend bien de quoi qu'on parle.
Oui, ben écoutez, je pense que ce qui est important, oui, repartons un peu à la base. Donc, un actif numérique, ce qu'on va utiliser ici, on va peut-être davantage utiliser le terme d'actif marketing numérique. Parce que des actifs numériques, il peut y en avoir beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, le but de l'explication pour notre audience, c'est surtout de pouvoir faire un diagnostic de vos actifs marketing numériques. OK? Donc, je le répète, faire un diagnostic de vos actifs marketing numériques. Et pourquoi je veux parler de ça aujourd'hui? Ben, c'est intéressant. Jonathan, il faisait du réseautage ce matin. Je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas bon. Je veux apprendre comment être meilleur là-dedans. Mais en étant pas bon, j'ai été obligé de construire un petit peu mon développement d'affaires différemment à travers le temps. Je suis en toute honnêteté pas un tellement bon vendeur. C'est difficile pour moi d'aller vers les autres. Donc, je me suis dit comment les autres pourraient peut-être venir vers moi. Et ça, Jonathan pourrait également renchérir là-dessus de son côté. Donc, essentiellement, qu'est-ce qu'un actif marketing numérique? Le terme est bien dit, un actif, donc c'est quelque chose qui nous appartient et qui à un certain point, comme n'importe quel actif, va être capable de grandir et prendre plus de valeur à travers le temps. C'est ça l'objectif qu'on doit garder en tête aujourd'hui. Donc le point 1, c'est quelque chose qui nous appartient, un actif numérique, qui va être capable de gagner en valeur à travers le temps. OK? Maintenant, le deuxième point, qu'est-ce que peut être un actif marketing numérique? Un podcast. Un podcast, pour tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on va réutiliser le terme qui est très souvent utilisé dans le marché boursier, dans le marché financier, le fameux « compound interest ». Je vous le dis tout de suite, un podcast, plus que vous en faites à travers le temps, plus qu'il gagne à valeur d'une semaine à l'autre, si bien entendu, vous l'entretenez. Si vous sortez un épisode à chaque semaine, le 100e épisode va être bien meilleur que le 99e, il va avoir beaucoup plus d'écoute et automatiquement, il y a comme un effet boule de neige qui embarque à un certain moment donné. On ne sait pas si c'est à quel épisode, on ne sait pas si c'est le 50e, le 70e, le 150e, mais à un certain moment donné, il y a un déclic. Et là, automatiquement, il commence à se passer des très belles choses avec son entreprise. D'où l'idée de dire qu'un actif numérique, c'est quelque chose qui est capable de gagner de la valeur à travers le temps, qui est capable de grandir. Donc, un podcast. Un podcast peut être un très bel actif numérique. Un autre actif numérique qui a énormément de valeur pour n'importe quelle entreprise, son infolettre. Son infolettre. Est-ce que vous possédez des infolettres? Sûrement que oui, mais est-ce que vous possédez des infolettres entretenues? Ça, c'est une différente question. Je vois énormément d'entreprises, des fois, qui ont une infolettre. Ils disent, nous, on est très bons là-dedans, on envoie une infolettre par mois. Et là, je les regarde avec des grands yeux. Je dis, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va s'abonner à une infolettre qui vont recevoir simplement une fois par mois? La réponse risque d'être non. Du moins, ils vont vous oublier parmi ces 1 million d'autres emails qu'ils vont recevoir. OK? Donc, un podcast, une infolettre, une chaîne YouTube peut être un excellent actif numérique. Un groupe Facebook peut être un excellent actif numérique. Un compte LinkedIn avec beaucoup de followers peut être un autre excellent actif numérique. Il peut y avoir également un blog SEO qui reçoit énormément de trafic, qui peut être un bon actif numérique. Bref, il y en a plusieurs. La grosse distinction à avoir ici, que les gens qui nous écoutent doivent comprendre, c'est de se dire, il y a des actifs numériques qui nous appartiennent à 100% et il y a des actifs numériques qui nous appartiennent à 50, à 60%. Quels sont les actifs numériques qui nous appartiennent à 100%? Les infolettres, les blogs, tout le trafic qui va apparaître sur notre site Internet. Les actifs numériques qui nous appartiennent un peu moins, ben on parle surtout ici de médias sociaux, donc des groupes Facebook, des comptes LinkedIn, ça, on est toujours dépendant des changements qu'il peut y avoir au niveau des algorithmes. Et pourquoi je vous dis tout ça aujourd'hui? Parce que très récemment, j'ai fait l'acquisition d'un nouvel actif numérique. Donc, je l'ai dit haut et fort parce que ça a été rendu public, on a fait l'achat. On a fait l'achat récemment chez J7 Media d'un podcast qui s'appelle le podcast No Pay, No Play. Okay? Le podcast No Pay, No Play qui était une référence dans le domaine de la publicité Facebook dans le milieu francophone. L'animateur a eu certains enjeux personnels, donc il a décidé d'arrêter ce podcast-là et on s'est dit, pourquoi pas aller l'acheter? On a ouvert des discussions avec cette personne, on est allé acheter le podcast. Et pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait ça? Parce que les actifs numériques, si c'est bien entretenu, ça peut être un changement incroyable qui se déroule dans votre développement des affaires. Comme je l'ai dit, je suis quelqu'un d'assez nerveux, d'assez gêné d'aller parler à des gens qui ne me connaissent pas. Donc peut-être à un certain point, à un moment donné, si vous me croisez, assumez que je suis peut-être un introverti, même si je parle beaucoup, on va dire ça comme ça. Eh bien, à un moment donné, il faut se poser des questions, comment qu'on amène les gens vers nous. Et si on est capable de bâtir un peu un parc d'actifs numériques, on pourrait faire des similitudes ici avec un parc immobilier, ben là, vous allez voir que tranquillement, il y a des effets de levier qui vont se créer. Il y a des effets de levier qui vont se créer et chacun de ces actifs numériques-là vont être capables de grandir à travers le temps. Et à un moment donné, ça peut devenir 100% votre développement des affaires. Et nous, c'est ça, c'est de cette manière-là qu'on fait notre développement des affaires chez J7. Donc, la première question que je vous pose aujourd'hui, avez-vous fait un diagnostic de vos actifs numériques récemment? Est-ce que vous avez des actifs marketing numériques qui sont capables de grandir à travers le temps? Est-ce que vous les entretenez? Est-ce que vous comprenez l'impact que ça a sur votre entreprise? Ou même l'impact que ça peut avoir sur le moyen terme avec votre entreprise. Mais des actifs numériques, selon moi, c'est une des choses les plus importantes et c'est souvent une des premières choses que je regarde dans des acquisitions d'organisations. Des achats d'actifs, c'est beaucoup plus facile à faire que des achats d'organisation complets. Ça coûte moins cher également, puis ça peut avoir un effet peut-être plus rapide sur votre entreprise. Donc ça serait peut-être la première question que je vous poserai aujourd'hui. Jonathan, as-tu des questions, toi, par rapport à ça?
Mais j'apporterai un concept peut-être encore un petit peu plus en détail quand on fait un diagnostic d'organisation, c'est de regarder également quels sont les actifs qui sont à grand impact à court terme, mais que la retombée va être très décroissante rapidement, ou que c'est l'inverse. Donc, un exemple, si on écrit un article de blog aujourd'hui, il y aura probablement peu ou pas de retombée dans les premières journées, premières semaines. Ça va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant qu'il commence à avoir de la traction de gens qui vont venir. Donc ça, c'est un actif qu'on investit vraiment pour le long terme. Tandis que si on part aujourd'hui une chaîne TikTok et qu'on investit beaucoup de temps, mais le vidéo TikTok qui part a une durée de vie ou d'impact qui est très fort au début puis qui décroît à travers le temps. Donc moi, c'est un apprentissage que j'ai eu là, dans la dernière année, c'est l'importance de bien cibler dans son diagnostic. Est-ce qu'on a plus besoin d'actifs qui vont avoir un fort impact à court terme, mais qui vont mourir rapidement, ou l'inverse, et d'avoir également un bon plan à long terme, d'avoir un petit peu des deux à ce moment-là selon notre clientèle, parce que on veut du résultat à court terme, mais souvent c'est le résultat à long terme qui va avoir la plus grande vague, le plus grand effet au bout de la ligne.
Exact. Puis en anglais, on utilise le terme « network effect », mais plus ça grandit à travers le temps, ces podcasts-là ou ces actifs numériques-là, plus qu'ils deviennent là à part entière dans votre stratégie au complet de votre entreprise. Ça vous permet de faire du networking, ça vous permet de faire de l'acquisition de clients, ça vous permet de faire du recrutement de talent, ça vous permet d'avoir une pièce de branding qui peut vous faire rayonner si on veut vous inviter à des conférences ou à des discussions spécifiques. C'est impressionnant. Si vous entretenez les actifs que vous avez, quel impact que ça peut avoir sur votre organisation à travers le temps?
Et la question à se poser, c'est si un si grand effet positif au bout de la ligne, pourquoi qu'il y a tant d'entreprises qui n'investissent pas dans le développement d'actifs numériques? Et la réponse, souvent, elle est très simple. C'est une question de temps et de priorisation. Et on est plus attiré par le court terme que le long terme. Donc, un, faut connaître les effets bénéfiques qu'il peut y avoir. Faut savoir comment bien le faire. Mais après ça, faut mettre de l'effort et avoir confiance en l'avenir.
Dans le processus,
bien sûr. Ça va finir. Exactement. Et avoir confiance qu'un jour, ça va finir par payer au bout de la ligne. Pareil, comme si on achète un immeuble, ça prend beaucoup de temps à économiser une mise de fonds. On achète la mise de fonds les premières années. C'est généralement, en tout cas aujourd'hui, peu ou pas rentable. Mais dans plusieurs années, à ce moment-là, on est content de ce qu'on aura semé à ce moment-là aujourd'hui. C'est la même chose avec les actifs numériques. Et c'est, je pense, une des raisons, en tout cas de mon côté, puis tu as peut-être une opinion plus poussée que ça, Antoine, de ton côté, mais les gens, des fois, ne sont pas nécessairement prêts à mettre ce temps-là, cet effort-là, sans avoir le retour sur investissement à court terme, là.
Ouais, ben je pense que t'as amplement raison. Ça demande énormément de temps, énormément de patience. Mais je vois ça beaucoup pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, la création d'actifs marketing numérique comme le gym. C'est-à-dire que le gym, on y va chaque jour, ou du moins on essaye d'y aller chaque jour, quelques fois par semaine peut-être. Et on peut avoir des objectifs à court terme, mais très souvent, si vous allez au gym, vous le savez autant que moi, ça prend un certain temps avant de voir des résultats sur ce qu'on fait. Mais on le fait quand même. On le fait quand même, et à un certain point, à un moment donné, on voit des résultats. Et c'est la même chose avec l'entretien des actifs marketing numériques. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est si on pousse la réflexion un petit peu plus loin, comment vous pouvez mettre en place des actifs numériques, des actifs marketing numériques dans votre entreprise? Ben moi, je vais vous dire un petit peu comment on s'y est pris chez G7, ou plutôt dans notre groupe. La première chose que vous pouvez faire, c'est établir vos personnes cibles. C'est-à-dire, je vais vous donner exactement notre stratégie qu'on fait chez nous. On a établi nos personnes cibles de se dire, nous, on parle soit un chef d'entreprise, soit un directeur marketing d'une boutique en ligne, ou soit un acheteur média. Ce sont nos trois personas cibles, et même que l'acheteur média peut être autant une personne qui peut devenir un client chez nous qu'un employé. Donc, on a été capable de faire un effet double ici. Là, on s'est dit, parfait, on a trois personas. Comment qu'on est capable de bâtir un message hebdomadaire à ces personnes-là chaque semaine ad vitam aeternam? Parce que si ces personnes-là, chaque semaine, nous écoutent, à un certain point, à un moment donné, qu'on aura quelque chose à dire d'un petit peu plus orienté sur une offre, sur de la conversion, mais ils risquent de nous écouter parce qu'on aura été capable d'entretenir une conversation avec ces gens-là sur le long terme. Et ces personnes-là, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'elles peuvent se retrouver à l'intérieur d'une même entreprise ou à l'intérieur d'un même réseau d'affaires ou à l'intérieur d'un même groupe d'amis. Le président d'entreprise peut aller dire à l'acheteur média d'écouter un certain contenu. Le président d'entreprise peut aller dire à sa directrice marketing au domaine e-commerce d'aller prendre le conseil qu'on était capable de trouver dans le podcast Commerce Elite ou d'aller écouter un podcast qui parle de commerce électronique qui est relié à sa catégorie d'affaires. Et quand on est capable d'entourer les différents personas et de bâtir une conversation avec ces gens-là chaque semaine, c'est ce qu'on a voulu faire, nous, avec le podcast Hypercroissance. On discute avec des entrepreneurs chaque semaine. Et croyez-moi, vous devenez de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Avec le podcast Commercialite, on bâtit des conversations avec les directeurs marketing. Avec le podcast Social Selling et No Pay No Play, on parle à des acheteurs médias de publicité Facebook. Eh bien, à un moment donné, ces trois personnes-là, je reviens un petit peu à l'idée de Network Effect, se parlent entre eux et sont capables de se dire, si tu veux écouter un podcast à faire, écoute Hypercroissance. Si tu veux écouter un podcast de publicité Facebook, écoute Social Selling. Et cet effet de réseau-là qui est en train de se créer fait juste s'amplifier à travers le temps. Et c'est là que vous allez voir vos écoutes monter. On parle ici de podcast, mais la même chose pourrait être également vraie si on parlait d'une chaîne YouTube, si on parlait d'un infolettre, si on parlait d'un blog. On entoure notre personne cible, on crée un contenu qui soit audio, écrit, vidéo, qui peut perdurer et avoir un impact long terme pour notre organisation. Puis après, on est patient. Puis on le fait sans jamais trop se poser de questions. Et à un certain point, à un moment donné, ça peut avoir des impacts impressionnants pour vous. Nous, c'est ce qui a remplacé une équipe complète de développement d'affaires chez nous. On n'a jamais eu d'équipe de développement d'affaires, mais d'un autre côté, sachant qu'on est une firme de marketing, on sait un petit peu comment se marketer. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire. Et loin de moi l'idée de vous dire de faire un ou l'autre. Les deux sont très importants. Ils ne sont pas mutuellement exclusifs en toute honnêteté. Mais si vous êtes capable de bâtir ces actifs marketing numériques-là et vous ajoutez à tout ça une amplification avec une équipe de développement d'affaires, là, je pense que vous êtes quasiment inarrêtable. Parce que ce qui se déroule, et nous, on l'a vu récemment, on a commencé à faire un petit peu d'approche à froid, c'est que les approches à froid que vous allez faire avec vos clients cibles, ces gens-là vont vous connaître. Et il y a sûrement des gens dans le développement d'affaires aujourd'hui qui nous écoutent. En toute honnêteté, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir une conversation avec quelqu'un qui vous connaît, qui vous suit depuis un bon bout de temps ou qui a entendu votre nom qu'une personne qui ne vous connaît pas. Donc, l'amplification qui peut se dérouler entre équipe de développement d'affaires, et encore une fois, nous, on le fait à toute petite échelle, on n'a pas une grosse équipe de vente. Toi, je sais que Joe, tu as une équipe de vente un petit peu plus sophistiquée, donc peut-être tu pourras mentionner quelques points par rapport à ça. Relié à des actifs marketing numériques qui sont capables de grandir à travers le temps, je pense que ça peut être une recette excessivement puissante pour aller chercher des parts de marché, chercher des clients semaine après semaine.
Effectivement, et la dynamique justement avec le marketing et la force de vente en outbound, donc les représentants qui appellent directement un peu plus à froid les clients, devient extrêmement intéressante quand on a bâti des bons actifs numériques, parce que généralement, de bâtir un actif numérique, faut toujours se poser la question, comment apporter de la valeur à notre persona? Donc, quand on se met à avoir beaucoup, beaucoup de contenu qui a une grande valeur ajoutée pour ce persona-là, ça devient un effet de levier extrêmement intéressant pour engager des conversations pertinentes avec des prospects. Donc, si je donne un exemple dans mon industrie, au niveau du développement logiciel, on sait que la problématique souvent dans des équipes à l'interne chez les clients, c'est la performance des équipes puis la qualité de ce qui est livré dans ces équipes-là. Donc, on a commencé à produire effectivement du contenu pour répondre à cette problématique-là. Et quand on appelle des prospects, on leur dit simplement, on voit qu'il y a cette problématique-là dans des équipes comme la vôtre. Avez-vous ce problème-là? Si oui, on a un podcast par rapport à ça, on a des articles de blog par rapport à ça. Puis là, on peut commencer à leur fournir de la valeur au départ de la discussion. Et là, on se place beaucoup plus comme quelqu'un qui est pas nécessairement là pour vendre, mais qui est là pour aider à résoudre des problèmes. Et en cours de route, on voit comment qu'on peut vraiment, avec nos services, nos produits, venir rajouter de la valeur sur ce contenu-là qui est fourni gratuitement à nos prospects. Donc, il y a vraiment une synergie à faire, autant avec l'équipe de vente vers l'externe que le marketing qui est un peu plus tourné inbound, interne. Si on est capable de bien arrimer tout ça ensemble et de toujours positionner la valeur livrée au client, honnêtement, ça fait un effet de levier qui est très, très, très intéressant sur les deux volets, à ne pas négliger au bout de la ligne. Et c'est ce qu'on a beaucoup poussé, nous, de notre côté, là, dans les derniers mois, derniers trimestres chez OpenMind. Je fais une parenthèse, j'ai eu la chance de parler avec beaucoup d'entrepreneurs à succès également sur le podcast Pivot. Puis généralement, là, ce que j'entends au niveau marketing, entre autres pour le développement de produits, c'est ça décollait pas. Puis à un moment donné, ça s'est mis à décoller quand j'ai décidé d'investir justement dans le développement d'actifs numériques et d'être patient et d'apporter de la valeur. Et souvent, j'entends, quand je pose la question, qu'est-ce que tu ferais différent aujourd'hui, ça serait d'investir plus tôt dans le stade de l'organisation, dans justement développer les actifs numériques à haute valeur ajoutée. Et c'est toujours le même discours généralement que j'entends des entrepreneurs. Je me dis la même chose de mon côté aussi. Antoine, je pense que tu es un des précurseurs au Québec à avoir amené ça, puis je te félicite parce que je pense que tu inspires beaucoup de gens. Mais faut pas oublier qu'on a vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant au Québec comme avantage partout à travers le monde. C'est que le marché du Québec, d'un côté, n'est pas extrêmement grand, mais on est protégé un peu dans la francophonie. De l'autre côté, ça nous permet d'aller voir quel genre d'actifs numériques en anglais qui a une grande traction de d'autres entreprises et de simplement de s'inspirer de ça pour dire « ça fonctionne bien de leur côté ». Moi, je vais faire la même chose, mais dans une langue qui est plus connue dans mon marché, exemple en français. Et là, ça peut venir donner une traction et enlever beaucoup de questionnements de comment le faire et quoi faire également aussi. On peut s'inspirer de ce qui se passe aux États-Unis en anglais. Donc, on a vraiment un bel avantage au Québec que je pense qu'on néglige trop souvent.
Alors, je suis tellement d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. C'était très intéressant le fait que tu as parlé de outbound et de inbound ensemble. Ça ne donne pas un effet d'addition, ça donne un effet de multiplication. C'est ça qui est très, très important de garder en tête. Effectivement, aussi, on peut s'inspirer du marché américain. Peut-être pour revenir sur un point que tu as mentionné, comment on peut se positionner à travers ces actifs numériques, ces actifs marketing numériques-là qui vont prendre la valeur à travers le temps, tout en étant obligé de générer des résultats à court terme parce qu'on a des salaires à payer, on a une entreprise à faire rouler. Et là, je pense que c'est ici que s'installe cette belle dynamique-là entre du marketing de médias payants et du marketing de contenu. Souvent, les gens essayent de se positionner à un endroit ou à l'autre, de se dire « moi, je suis 100% orienté sur du marketing de conversion, générer des ventes à court terme, générer des leads, le contenu, c'est pas pour moi. » Et d'un autre côté, tu as des gens qui sont très orientés, création de contenu, création d'actifs marketing numériques sur le long terme. Les deux approches peuvent fonctionner, mais je crois que l'endroit qui est très intéressant où est-ce qu'on peut se positionner, c'est entre les deux. C'est entre les deux, c'est ce qu'on essaie un petit peu de faire avec nous dans notre organisation. On investit beaucoup en publicité. On investit beaucoup en publicité. Mais de quelle manière on investit en publicité? On investit en publicité pour bâtir des plus grands actifs marketing numériques. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que si on est capable d'utiliser le pouvoir de la publicité payante que Google nous offre, que Facebook nous offre, que TikTok peut nous offrir, que d'autres canaux publicitaires très connus sont capables de nous offrir avec une vision de se dire, on va essayer de rentabiliser le tout d'une certaine manière en essayant de liquider notre coût publicitaire, en essayant de vendre des produits qui ont une haute marge de profit pour nous. Comme ça, on va être capable de rentabiliser l'investissement publicitaire tout en faisant grandir des actifs numériques. Habituellement, si on est capable d'œuvrer dans cet environnement-là, c'est là qu'on va avoir beaucoup de succès parce qu'on fait grandir, ou plutôt on fait accélérer la construction de nos actifs marketing numériques. Et d'un autre côté, si notre marketing de conversion est bien fait à court terme, on arrive à générer des clients, on arrive à générer des ventes. Si on peut jouer là-dedans, habituellement, on est dans un endroit très intéressant.
Et c'est là qu'on voit que certains sur le marché se démarquent versus d'autres. Regardez vos compétiteurs, regardez les gens qui bougent beaucoup dans votre industrie. Probablement que ce qu'on parle aujourd'hui, ils sont déjà en train de bouger à pleine vitesse. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a moyen d'être plus précis dans certains créneaux puis d'être plus pertinent aussi, même s'il y a déjà une vélocité de votre compétition, il y a moyen d'aller être encore plus en détail pour apporter encore plus de valeur à vos prospects. Donc, regardez votre compétition, regardez vous-même, puis regardez la compétition aussi aux États-Unis. Inspirez-vous de ça dans comment vous pouvez développer un plan marketing en question, en lien avec les actifs numériques.
Fantastique. Jonathan, est-ce que tu as des choses à rajouter avant que je te laisse filer?
C'est complet. Des petites nouvelles peut-être en rafale, Antoine, si tu le permets. On a ChatGPT dans les dernières journées qui a eu un bug assez majeur où les requêtes de tous se sont retrouvées disponibles dans d'autres interfaces de d'autres utilisateurs. Donc, un bug majeur. Dans ChatGPT, on voit tout l'historique des demandes qu'on a fait. Et il y a plusieurs personnes qui se sont ramassées avec des sujets ou du moins des discussions avec ChatGPT qui n'étaient pas les leurs. Donc, j'ai fort à parier qu'il y a des gens chez OpenAI qui ont perdu leur travail dans les dernières journées avec cet impressionnant bug-là de sécurité. On a encore dans l'intelligence artificielle, Microsoft, dans sa dernière coupure de 10 000 employés, a remercié pratiquement toute l'équipe d'éthique à l'intelligence artificielle. Donc ça pose, en tout cas moi je me pose des questions sérieuses par rapport à ça parce qu'ils étaient plus d'une trentaine dans le pic à s'assurer qu'il y ait des garde-fous au niveau de l'intelligence artificielle chez Microsoft. Et un reporter a réussi à avoir l'information que la majorité de l'équipe a été malheureusement décimée dans les dernières semaines. Ça pose de sérieuses questions, entre autres, versus Microsoft qui avance à vitesse grand V dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans tous ces logiciels-là. Et une petite nouvelle, une université qui fait un peu concurrence probablement au Elon Musk de ce monde, Rolls-Royce, qui a levé un financement pour développer des mini-réacteurs nucléaires pour réussir à aller sur la Lune et être autosuffisant au niveau énergie. Donc, à suivre, fort à parier que ce concept-là, en réalité, va servir pour des fins terrestres, pour avoir une énergie, disons, peut-être plus propre que ce qu'on a aujourd'hui au niveau du charbon et du pétrole et tout le reste. Mais quand même assez une usité qui sort avec cette nouvelle-là de dire que leur but est d'aller sur la Lune. Donc, ça sera à suivre. Étonnant de la part de Rolls-Royce.
J'adore les nouvelles en rafale que tu nous donnes à chaque semaine, Jonathan. On mettra les liens dans les notes de l'épisode. Merci encore une fois à tous les gens qui nous écoutent. Merci beaucoup, Jonathan. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.